Bosseurs.
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Bonjour Louise Bernard.
Bonjour Philippe, bonjour tout le monde.
Au sommaire de votre journal des médias.
Journal dense ce matin. Je reviens sur l'annonce de la mort d'Elisabeth II dans nos médias français. Et puis le reste de l'actu média, la rentrée de ses politiques avec un nouveau présentateur en interview dans ce journal. Une information à Culture Média aussi qui concerne Snapchat. Et puis des petites infos sport, mercato et santé.
Place d'abord aux audiences qu'ont regardé les Français hier soir à la télé, le trio de tête.
Ils ont regardé France 2, hein, la soirée spéciale, l'édition spéciale sur Elisabeth II. 3 390 000 téléspectateurs en moyenne, 16,8% de part d'audience. Loin devant TF1, alors... La série Vise le cœur a commencé à 21h30, le journal est resté un petit peu, mais je vous donne uniquement le score de Vise le cœur, 1 940 000 téléspectateurs seulement, 12,4% de part d'audience en moyenne, ce qui fait une grosse chute, hein, près de plus de 2 millions de téléspectateurs en moins par rapport à la semaine dernière, peut-être qu'ils préféreront le replay. Et puis troisième, c'est France 3 avec sa série Hors saison qui là aussi chute, 1 850 000 téléspectateurs, 9,7% de part d'audience. Il faudra voir sur les prochaines semaines, hein, parce que forcément avec un événement comme la mort de la reine, on peut pas trop concurrencer. À noter quand même qu'M6, ça n'a pas du tout marché, hein. M6 qui a fait le choix de déprogrammer Cauchemar en cuisine pour remplacer par 3 documentaires sur Elisabeth II. 670 000 téléspectateurs seulement, 3,6% de part d'audience.
Europe 1, Culture Média.
Place au journal des médias maintenant. La mort de la reine d'Angleterre fait aussi la une de la presse quotidienne française.
Nous l'avons tant aimée, clame celle du Parisien aujourd'hui en France. La peine d'Angleterre, titre Libération en noir et blanc avec une photo d'Elisabeth II jeune. Pas de difficulté pour les journaux pour trouver une image de la reine, mais plutôt pour la choisir, hein, elle qu'on qualifiait de femme la plus photographiée au monde.
Et on revient, Louise, ce matin sur l'annonce de ce moment d'histoire. On a entendu au début de l'émission, le présentateur de la BBC. Comment cela s'est-il passé chez nous, dans nos médias français?
Il est 19h30 quand la dépêche tombe, celle qui annonce la mort d'Elisabeth II, dépêche qui va immédiatement donner le feu vert à toutes les rédactions pour publier l'information et publier aussi tous les articles déjà prêts, parce que oui, pour certaines personnalités, les nécrologies sont préparées à l'avance, régulièrement actualisées, jusqu'au moment où il faut malheureusement s'en servir. Évidemment que celle de la reine d'Angleterre était plus que prête, d'autant plus que Buckingham Palace a communiqué tout l'après-midi autour de l'état de santé de la reine. C'est pour cela que les sites internet des médias débordaient déjà d'articles très fournis et de rétrospectives de la vie de la reine dès 19h31.
Et du côté de la télévision, ce sont évidemment les chaînes d'infos en continu qui sont les premières à donner la nouvelle.
À commencer par BFM TV à 19h32, puis France Info et CNews 30 secondes plus tard, et la petite dernière LCI presque 2 minutes après BFM TV.
Alors, à l'instant même, on annonce le décès de la reine d'Angleterre. C'est maintenant tout à fait officiel.
Pardonnez-moi, on apprend à l'instant qu'elle est décédée, que la reine Elisabeth II est décédée.
Par François Bayrou, donc la minorité présidentielle.
Pardon, Aurélie Trouvé, je dois vous arrêter. On apprend ce qui était assez prévisible depuis un certain temps. La reine Elisabeth est décédée.
Je vous interromps. La reine Elisabeth II n'est plus de ce monde. Elle est décédée cet après-midi à Balmoral.
Quant aux chaînes généralistes, TF1 et France 2 lancent leurs éditions spéciales quasiment au même moment, 5 minutes après à 19h37. TF1 interrompt son feuilleton quotidien pour lancer le générique de son édition spéciale, générique créé exprès pour l'événement.
Ouais, ils vont pas y rester longtemps, on va charger de les faire disparaître, crois-moi.
Je suis sûr qu'ils vont se...
Mais oui, on entend bien la coupure.
Ouais.
De son côté, France 2, elle a profité de la publicité et du jeu N'oubliez pas les paroles de Nagui pour prendre l'antenne.
Nous revenons après.
Nous interrompons nos programmes parce que nous venons d'apprendre que la reine Elisabeth II était morte.
Et du côté de France 3 et M6, c'est l'heure des JT ou presque. L'information est donc très vite donnée là aussi. Pareil sur TMC, l'émission d'Yann Barthès quotidien est alors en direct. Même chose pour France 5 et l'équipe de C'est à vous. Alors au-delà des éditions spéciales, les programmes du soir sont ensuite bouleversés. Vous l'avez entendu dans les audiences. Et ça va continuer ce soir. France 3 diffuse 2 documentaires à la suite. Soirée spéciale aussi sur Histoire TV avec la diffusion là aussi de 2 documentaires. Un autre encore sera proposé sur France 5 dimanche à 17h35. Il faut s'attendre à ce que d'autres changements de programme soient annoncés dans la journée par les chaînes.
Et on ferme cette page sur la reine d'Angleterre dans le journal des médias. On va y revenir longuement tout à l'heure avec nos invités. En attendant, La suite de l'actu des médias avec deux infos en bref, Louise.
Laurence Ferrari devrait succéder à Bruno Jeudy à la rédaction en chef politique et économique de Paris Match. C'est en tout cas ce qu'avancent plusieurs médias, dont Stratégie et Les Jours. Rien n'a encore été officialisé. Et puis Michel Simès révèle être guéri d'un cancer. Le médecin animateur l'écrit dans un livre qui paraîtra en octobre. Nous n'avons pas beaucoup plus d'informations. La présentation de l'ouvrage indique simplement cette phrase de Michel Simès. Vous allez constater que le cancer n'arrive pas qu'aux autres et qu'il importe de se faire dépister, car on n'a pas toujours la chance comme moi de le découvrir par hasard.
Par hasard. Dans l'actualité des médias également, la rentrée dimanche de l'émission C'est Politique, mais avec un nouveau présentateur.
Oui, Thomas Negaroff reprend les rênes de l'émission puisque Karim Rissouli a souhaité arrêter. Alors, c'est pas vraiment la première fois qu'il va la présenter, hein, puisqu'il a déjà officié comme remplaçant plusieurs fois. Quelle nouveauté pour cette 7e saison, mis à le présentateur donc. Rien de révolutionnaire puisque Thomas Negaroff s'inscrit dans la lignée de son prédécesseur. Le décor reste identique, le principe aussi, une émission d'actualité mais sans invité politique dans la première partie, un plateau donc où se mêlent discussions d'intellectuels, rencontres et reportages de terrain. Thomas Negaroff.
L'idée, c'est de faire se rencontrer et de multiplier la conversation, la discussion entre des sphères de la population qui se parlent peut-être de moins en moins. Donc ça, c'est un peu mon ambition et une obsession peut-être un peu vaine, mais je crois que c'est important aujourd'hui dans notre contexte démocratique et républicain largement abîmé, de retrouver des endroits où les gens peuvent se parler. Et si ça se passe le dimanche soir sur France 5 dans ces politiques, j'en serais très heureux.
Le vrai changement est du côté des chroniqueurs, de la bande de ces politiques, avec deux nouveaux venus, les journalistes Salomé Sake et Gallagher Fenwick. Thomas Negaroff aimerait qu'ils participent d'ailleurs davantage à la discussion du plateau, qu'ils interviennent plus, chacun avec sa personnalité et la sienne, tire d'ailleurs celle de Thomas Negaroff. Quelle va être sa patte? Il m'a confié qu'il aurait du mal à se départir de son passé de prof d'histoire géo.
Il y a chez moi un désir de, très clairement de pédagogie permanent, d'essayer d'être très clair sur les enjeux, de moi les comprendre avant de les restituer. Peut-être aussi le désir de faire vivre la bande autour de moi. Moi, je n'ai jamais rêvé d'être animateur télé. Donc, c'est pour moi, la réussite de cette émission, c'est vraiment si je ne suis pas forcément mis en avant, si c'est l'invité qui est mis en avant, si c'est l'émission qui est mise en avant, et plus encore, si c'est la discussion qui est mise en avant.
Pardon, pour faire partie de la classe de Thomas Negaroff, il suffit de regarder C'est Politique sur France 5 dimanche à partir de 18h30. C'est parce que je suis encore un peu émue de la reine, c'est pour ça.
Voilà. Et puis vous buviez les paroles de Thomas Negaroff.
Tout à fait.
Information culture média pour terminer ce journal. Snapchat s'associe au 3114, le numéro national de prévention du suicide.
Oui, la fondation Jean Jaurès a publié un chiffre alarmant cet été. 62% des 18-24 ans ont eu des pensées suicidaires depuis la crise sanitaire, depuis septembre 2021, contre 34% de la population générale. Snapchat étant un réseau social très prisé par les jeunes, ils décident de s'engager sur la question de la santé mentale à travers ce partenariat. Donc à l'occasion de la journée mondiale de la prévention du suicide qui a lieu demain, les utilisateurs vont pouvoir utiliser un filtre spécifique où figure le 3114, de quoi faire connaître ce numéro national de prévention du suicide. Et puis Snapchat met à disposition des ressources pour se renseigner ou être mis en relation avec des experts sur le site d'assistance Snapchat en y publiant des informations autour de la santé mentale. Et puis via la diffusion d'une vidéo de sensibilisation sur un portail, il s'appelle Here for You. Ce n'est pas nouveau, c'est un outil qui a été lancé pendant le confinement justement pour mettre à disposition des ressources pour les utilisateurs de Snapchat qui auraient donc besoin d'aide. Il va là être enrichi. Sarah Bouchawa est responsable des affaires publiques de Snapchat France. Elle m'a expliqué la démarche du réseau social.
On est un moyen d'information, c'est-à-dire qu'avant on avait les moyens d'information traditionnels. Les jeunes désormais s'interrogent petit à petit et en fait on grandit à travers les réseaux sociaux et à travers leur mobile. Donc si nous pouvons être le pont justement pour mieux les informer et mieux les accompagner, nous acceptons ce rôle volontiers justement. Chez Snapchat, on voit surtout le côté, on va dire, positif des réseaux sociaux. Snapchat, c'est une plateforme de communication visuelle et de messagerie interpersonnelle qui permet justement de faire le lien avec ses amis et ses proches. On estime qu'on a un important rôle sociétal. Donc si on peut faire le pont justement entre notre communauté et les différentes politiques sociétales, les organismes et les ressources d'accompagnement, c'est notre principale priorité.
Avec 26 millions d'utilisateurs mensuels actifs en France revendiqués, Snapchat peut effectivement toucher un grand nombre de Français avec ses initiatives qui sont donc lancées demain.
Merci beaucoup Louise Bernard et à lundi pour un nouveau journal des médias.
À lundi.